Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. Dans 30 minutes, je vous propose de réagir au dialogue national annoncé par le président camerounais Paul Biya pour tenter de régler le conflit séparatiste qui ensanglante les deux régions anglophones du pays. Depuis 3 ans, les combats et les exactions ont fait plus de 2000 morts. Un dialogue inclusif pour sortir de cette crise. Mais le président Biya a tout de même prévenu. Le Cameroun restera un et indivisible. En substance, donc, pas question de débattre de la partition du pays et de la sécession. Alors comment envisagez-vous ce dialogue national? Quelle issue au conflit anglophone? On en parle et ça faisait longtemps qu'on n'en parlait pas dans cette émission. Vous êtes nombreux donc à souhaiter profiter de l'occasion pour vous exprimer. 33 9 693 693 70. Ce sera donc dans 30 minutes. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction de RFI. Nous avons reçu plusieurs questions sur l'affaire dite des 15 millions de dollars présumés disparus du trésor en République démocratique du Congo. C'est incontestablement le sujet qui domine toutes les discussions, tous les débats en RDC. Nous appellerons évidemment notre correspondante Florence Maurice. Mais pour commencer, des questions sur la situation à Hong Kong. Bonjour Mamadou.
Bonjour.
Vous êtes à Conakry, en Guinée. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui. Après plusieurs mois de manifestations à Hong Kong, la chef du gouvernement Carrie Lam a annoncé le retrait du projet de loi d'extradition vers la Chine. Mmh. Alors, comment expliquer que malgré le retrait de ce projet de loi, les manifestations continuent?
Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que dimanche dernier, pour la 14e semaine consécutive, les rues de Hong Kong ont été le théâtre de manifestations. Alors que vous le disiez, Mamadou, 3 jours plus tôt, la chef de l'exécutif avait annoncé le retrait de cette très controversée loi d'extradition. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan, bonjour Mamadou.
Stéphane Lagarde, correspondant de RFI à Pékin, vous étiez ces derniers jours à Hong Kong. Toute la question évidemment, Stéphane, était de savoir comment les manifestants allaient gérer la décision prise par Carrie Lam. Et visiblement, ils ne sont pas satisfaits.
Oui, tout simplement parce que cette annonce arrive trop tard, Mamadou. Et surtout, elle ne répond pas, disent ces manifestants, aux 5 revendications qu'ils ont posées. Il faut les voir, Juan, cette jeunesse hongkongaise, on a passé 10 jours avec eux. Et tous nous disent aujourd'hui qu'ils ne font pas confiance à un exécutif et donc au gouvernement hongkongais qu'ils considèrent, ces manifestants en tout cas, comme un gouvernement installé par Pékin, beaucoup estimant que les élections de 2014 leur ont été volées en quelque sorte. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Alors, ils sont fatigués, ces manifestants hongkongais, Mamadou, mais il y a une grande détermination chez eux. J'ai rarement vu, j'ai fait beaucoup de reportages, moi, à l'étranger, et c'est la première fois presque que je vois une telle détermination. C'est devenu presque une question existentielle, j'allais dire, pour cette jeune génération hongkongaise et même pour les anciens, donc ils ne sont pas prêts à s'arrêter. J'ai rencontré un monsieur de 70 ans, par exemple, Mamadou, un ingénieur à la retraite, qui me disait que la façon dont la propagande et les médias de Chine continentale avaient traité au début, en tout cas en juillet, en août aussi, les Hongkongais, vous savez, la télévision centrale de Chine, qui avait par exemple comparé les manifestants aux nazis sur son compte Twitter, ou d'autres qui les ont qualifiés de cloportes carrément, eh bien, ou alors le contrôle des téléphones aussi, on sait que les Hongkongais, quand ils sortent maintenant, quand ils sont sur le continent, certains se font contrôler leur téléphone, tout ça ne plaît pas. Donc cette communication a divisé les Chinois, probablement pour des raisons intérieures, en tout cas, le pouvoir craignant peut-être chinois, craignant que le message de liberté venu de Hong Kong finisse par passer sur le continent, et donc ils continuent effectivement, ils ont toujours 4 autres revendications. C'est un peu, moi, ce que j'ai appelé la fureur de survivre de ces jeunes Hongkongais. Ils sont pas prêts, effectivement, de s'arrêter malgré le retrait formel de...
Ouais. Rappelez-nous, Stéphane Lagarde, quelles sont justement les 4 autres revendications de cette jeunesse hongkongaise?
Alors, il y a aussi la demande d'une enquête indépendante sur les violences supposées de la police. Alors, Carrie Lam a répondu partiellement. Elle a dit que les plaintes individuelles seraient toutes traitées. Elle met aussi en place une plateforme de dialogue autour de ces violences. Alors, ça leur suffit pas. Encore une fois, ils demandent une commission d'enquête indépendante. Ils demandent aussi la remise en liberté des protestataires arrêtés. Là aussi, Carrie Lam a répondu que c'était pas possible de décider comme ça, le faire comme ça. C'était la justice qui devait en décider. Et puis un renforcement des libertés individuelles et plus de démocratie. Et puis la démission. Alors ça, c'est évidemment plus compliqué pour Carrie Lam elle-même, puisqu'il demande, ces manifestants, la démission de la chef de l'exécutif. Elle n'est vraiment pas aimée, Mamadou, la chef de l'exécutif hongkongais. Elle est considérée par certains comme une marionnette dans les mains du pouvoir chinois. Elle est tout en bas des sondages Je lis ce qu'écrivaient nos confrères du journal Le Monde il y a trois jours. En fait, le scénario était presque à prévoir dès son arrivée au pouvoir, car il a, Madame Lam, est le produit d'une élection injuste et inéquitable. Ça va lui rendre la vie difficile, disait ainsi une des grandes figures du camp pro-démocrate. Ceci est une sélection et pas une élection, car il a, va être un cauchemar pour nous, faisait également savoir Joshua Wong, toujours cité par le journal Le Monde. Donc pour des millions de Hongkongais aujourd'hui qui manifestent depuis maintenant, vous l'avez dit, hein, plusieurs mois, Mamadou, eh bien l'exécutif serait porteur d'une sorte de cauchemar. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'ils attendent. Et donc, ils veulent aussi cette démission de Carrie Lam.
Ouais, il a fallu tendre l'oreille, le réseau téléphone se dégrader au fur et à mesure. Stéphane Lagarde, en direct de Pékin. Merci d'avoir pris le temps, Stéphane, pour répondre à Mamadou de Conakry. 10h17, déjà à Paris, le temps passe vite. Encore des questions. Et on va retrouver dans un instant, comme promis, notre correspondante permanente en RDC, Florence Maurice, pour répondre aux nombreuses questions sur cette affaire qui défraie la chronique sur place. Où sont passés les fameux 15 millions de dollars? Mais d'abord, Ibrahim a des questions à nous poser sur les toutes récentes déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Abidjan. Allez-y.
Depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, Israël a fait plusieurs révélations sur les sites nucléaires iraniens. Cette semaine, le premier ministre israélien a une nouvelle fois accusé l'Iran d'avoir développé puis détruit un nouveau site nucléaire. Les révélations sont-elles fondées? À une semaine des élections législatives, quelle est la visée électorale de cette annonce que dénonce l'opposition?
Oui, c'est vrai qu'à quelques jours des élections législatives anticipées, l'opposition accuse le Premier ministre sortant d'agiter le spectre de la menace iranienne à des fins de propagande électorale. Guilhem Delteil, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Ibrahim.
Correspondant permanent de RFI à Jérusalem. Alors effectivement, en début de semaine, devant la presse, Benjamin Netanyahou a clairement accusé l'Iran d'avoir construit puis détruit un site visant à fabriquer des armes nucléaires. Bonne question que nous pose Ibrahim. Quels sont les éléments présentés par Benjamin Netanyahou pour appuyer ces accusations?
Alors, dans son allocution télévisée de lundi, hein, Benjamin Netanyahou, il a présenté des cartes et des images satellites. Mais il n'y avait rien de très confidentiel, finalement, dans les documents qu'il a montrés à la télévision. Ce sont des éléments qui sont accessibles assez facilement sur Internet. Mais pour lui, eh bien, elle démontrait la présence d'un bâtiment en Iran et puis sa disparition quelques mois plus tard. En revanche, pour appuyer le fait que le bâtiment abritait bien un site de construction d'armes nucléaires, eh bien, Benjamin Netanyahou a évoqué les archives nucléaires iraniennes. Rappelez-vous, ce sont ces milliers de documents, de classeurs, de CD-ROM que les services secrets israéliens avaient réussi à faire sortir d'Iran et que le Premier ministre israélien avait présenté en avril 2018, il y a un peu plus d'un an. Ce sont ces archives, dit-il, qui ont permis d'attirer l'attention sur ce site. Alors ces archives, elles n'ont jamais été rendues publiques et c'est vrai qu'il est difficile de dire ce qu'elles contiennent véritablement, mais les Israéliens les ont partagées avec leurs alliés. Et puis l'opposition israélienne qui a critiqué cette intervention télévisée de Benjamin Netanyahou n'a pas accusé le Premier ministre de mentir. Elle lui a en revanche reproché de faire un usage politique de ces renseignements qu'on peut estimer tout de même assez fiables à quelques jours d'élections législatives aux résultats très très incertains.
Oui, alors justement, Guilhem Delteil, quel peut être l'intérêt électoral de Benjamin Netanyahou de dévoiler ces informations?
Alors l'intérêt électoral pour Benjamin Netanyahou était probablement triple. Il s'agissait tout d'abord d'occuper la scène médiatique. Depuis plusieurs jours, Benjamin Netanyahou dominait le débat public avec un projet de loi qu'il voulait faire passer avant les élections, un texte qui aurait permis au Likoud, son parti, d'introduire des caméras dans les bureaux de vote, notamment dans les bureaux de vote de localités arabes, car Benjamin Netanyahou affirme qu'il y a de la fraude électorale dans ces municipalités, que cette fraude l'a empêché de constituer une majorité en avril dernier. Cette fraude n'a pas été prouvée, mais ce projet de loi a occupé une bonne part du débat pendant une semaine. Il a été rejeté lundi matin par une commission de la Knesset, le Parlement, avec ses annonces sur l'Iran quelques heures plus tard seulement. Et bien Benjamin Netanyahou imposait immédiatement un nouveau sujet de débat dans la campagne. Il ne laissait pas ses opposants choisir les thèmes de cette campagne.
Oui, et puis disons-le, Guilhem Delteil, l'Iran c'est un sujet consensuel en Israël.
Oui, en effet, aucun responsable politique ne conteste le danger que représente la République islamique pour le pays. Ça retirait donc un angle d'attaque à l'opposition. Mais surtout, Benjamin Netanyahou rappelait finalement aux électeurs l'existence de cet ennemi, l'imminence de la menace. Une stratégie qui vise à souder les Israéliens derrière lui, car en période de conflit, eh bien, on ne change pas de chef. Enfin, l'effet plus lointain et bien plus incertain, eh bien, était d'essayer de faire dérailler le processus de négociation entre les États-Unis et l'Iran. Un processus que la France a essayé d'initier. Une éventuelle rencontre entre Donald Trump et le président iranien Hassan Rouhani n'est pas du tout dans l'intérêt de Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien se félicite d'être le seul capable de défendre les intérêts d'Israël sur la scène internationale. Et sa proximité avec Donald Trump est un de ses principaux arguments. Alors s'il avait obtenu une condamnation de la part des États-Unis de la dissimulation iranienne qu'il a, dit-il, révélée lundi soir, eh bien ça lui aurait permis de mettre en avant son influence sur la scène internationale. Mais Donald Trump a rapidement redit sa volonté de rencontrer Hassan Rouhani.
À suivre donc. Merci Guilhem Deltey, bonne journée à Jérusalem. Merci à Ibrahim qui nous appelait d'Abidjan. Comme promis, nous avons contacté notre correspondante permanente à Kinshasa. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour à tous.
Des questions donc sur cette affaire qui défraie la chronique en République démocratique du Congo, l'affaire dite des 15 millions de dollars présumés disparus des comptes du Trésor. Je signale, Florence Maurice, qu'avec Passion Ligaudi, également correspondant de RFI en RDC, vous avez enquêté sur cette disparition. Un dossier d'ailleurs à retrouver dès maintenant sur notre site rfi.fr. On va évidemment rentrer dans le détail de cette affaire grâce aux questions des auditeurs. Je vous propose, Florence, d'accueillir Giuliano. Bonjour Giuliano. Giuliano, êtes-vous là, Kinshasa? Ça a coupé, me dit-on. Je vois le technicien lever les bras au ciel. On va le rappeler, évidemment. Giuliano qui nous disait que c'était finalement donc l'inspection générale des finances congolaises qui a dénoncé la disparition de ces 15 millions de dollars. Où en est l'enquête de l'inspection générale des finances, nous demande Giuliano.
Alors en fait, à ce stade, l'inspection a terminé son travail, mais ce n'est pas fini pour autant. Le dossier est maintenant aux mains de la justice. Le jour où l'IGF avait rendu son rapport, immédiatement, elle avait saisi la Cour de cassation. Et selon nos informations, une enquête préliminaire a bien été ouverte dans la foulée par le parquet. L'inspecteur général des finances a expliqué qu'il avait rencontré, lui, des obstacles au cours de son enquête. Il parle même d'obstruction. Et il a donc estimé que la Cour de cassation avait à sa disposition plus de moyens contraignants pour mener cette enquête. Elle peut, par exemple, mener des perquisitions ou contraindre des personnalités à venir lui répondre. On se souvient, par exemple, que dans son rapport, l'IGF avait déploré que la Rabobank, qui héberge le compte litigieux, celui du comité de suivi des prix des produits pétroliers sur lequel ont transité les fonds, que la banque ait refusé de lui fournir des éléments sans une réquisition judiciaire, et aussi que le ministre de l'économie par intérim n'est pas mis à sa disposition les pièces justificatives qu'elle demandait sur l'utilisation de ces 15 millions. Il faut rappeler que selon l'IGF, 6 retraits ont été effectués en liquide sur ce compte en mai-juin dernier, pour donc un total de près de 15 milliards de dollars. Alors qui a effectué ces retraits? C'est toute la question. Et au profit de qui? D'autant que des sources concordantes affirment que cet argent a été retiré en liquide et donc très facile d'en perdre la trace, Juan.
Oui, donc l'inspection général des finances a terminé son travail. Où en est donc l'enquête à la Cour de cassation?
Alors, dès le 5 août, selon un document que RFI a pu consulter, la Cour de cassation a adressé à la Rabobank une réquisition portant sur le compte qui pose problème pour obtenir les documents qu'elle n'avait pas pu obtenir, que l'IGF n'avait pas pu obtenir. Une source judiciaire dans l'enquête confirme aussi que ce compte a bien été vidé, comme l'affirmait dans son rapport l'inspection générale des finances. On sait aussi qu'à ce jour, selon une source judiciaire, 3 personnes ont été auditionnées dans ce dossier, parmi lesquelles Georges Yambangoy, conseiller au cabinet du ministre de l'économie au moment des faits, et qu'une perquisition a été menée à son domicile. Voilà, l'instruction étant secrète, difficile d'en savoir beaucoup plus à ce stade, mais il faut préciser aussi que parmi les responsables présumés dans cette affaire, selon le rapport de l'inspection des finances, figurait également l'ex-ministre de l'économie par intérim et Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État, qui nie lui toute implication et l'existence même d'un détournement.
On parlera dans un instant de Vital Kamerhe. Vous avez, Giuliano, une deuxième question?
Oui, oui, Juan, depuis plusieurs jours, le climat politique entre l'IGF et la présidence est tendu. Y a-t-il des pressions concernant ces dossiers?
Alors, des pressions, il y en a eu, Florence Maurice.
Oui, l'IGF dit en avoir reçu. Le dernier exemple en date, hein, qui reste assez énigmatique, c'est ce point de presse organisé dimanche dernier par l'inspection générale des finances. La presse était convoquée à 13h. On attendait que l'inspecteur général éclaircisse un certain nombre de questions qui se posent, mais à la dernière minute, il a quitté les lieux. Il a alors expliqué à des témoins qu'il devait filer à la présidence en urgence. Et dans la foulée, un de ses collaborateurs a confirmé l'annulation du point de presse pour, selon ses mots, des raisons de coordination avec la hiérarchie. Et de manière générale, hein, plusieurs sources à l'inspection des finances dénoncent des convocations intempestives de la part des services de sécurité de la présidence congolaise. Ils évoquent un climat de harcèlement.
Il y a eu aussi des interpellations d'inspecteurs de l'IGF dans cette affaire.
Oui, deux inspecteurs de l'IGF ont été interpellés, c'est ce qu'ils ont dit à RFI. L'un d'eux a été détenu quelques heures par la police avant d'être libéré et l'autre a dit avoir été auditionné par les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béya. Alors, ce ne serait pas directement lié à l'affaire des 15 millions de dollars, mais à une autre enquête lancée par l'inspection générale des finances, cette fois sur l'ensemble des dépenses des ministères depuis l'investiture de Félix Tshisekedi. Il faut savoir qu'une grande opacité entoure la façon dont ont été gérées les dépenses publiques ces derniers mois. Voilà, donc c'est selon les enquêteurs, c'est là-dessus qu'ils ont été entendus, notamment sur un CD qui leur aurait été remis dans l'entourage du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. On rejette ces accusations de harcèlement et on parle seulement de réunions de routine.
Oui, cette seconde enquête, et c'est aussi une forme de pression que dénonce l'IGF, a été stoppée par le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi.
Oui, et cela ne fait qu'alimenter là aussi un peu plus les soupçons. Cette enquête avait été initiée à la demande de l'ANR, l'Agence Nationale de Renseignement, et le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a argumenté qu'elle n'était pas légitime selon lui pour le faire, car ni lui ni le chef de l'État n'avaient été autorisés. Parmi les détracteurs de Vital Kamerhe, on rejette cet argument, d'autant que l'ANR s'est aussi justifié en disant que cette enquête relevait d'un impératif de sécurité. Voilà, on voit bien que le climat est tendu et que tout cela divise, y compris au sein de la présidence.
Ouais, on a pris le temps de vous répondre, Giuliano, mais c'est important voilà, de retracer le fil de cette affaire. Paul est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons également sur cette affaire.
Oui, j'ai bien suivi et je voudrais savoir, Juan, quel est l'état d'implication du chef de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, dans toute cette affaire? Pourquoi son nom est cité? Quelle est la hauteur de son implication? Et quelle est la réaction du chef de l'État?
Oui, Vital Kamerhe, Florence Maurice, qui, vous le disiez tout à l'heure, figure parmi les personnalités que l'inspection des finances tient pour responsable.
Oui, voilà, parce que avant que les 15 millions de dollars ne soient versés sur le compte du comité de suivi des prix des produits pétroliers, selon l'IGF, dans un courrier, Vital Kamerhe avait demandé à ce que cet argent soit versé sur un autre compte, celui d'un comité de suivi qu'il préside directement et baptisé comité de suivi du programme président de la République. Alors, certes, l'argent finalement n'a pas été versé sur ce compte-là, mais selon l'Association congolaise pour l'accès à la justice, en soi, cette requête constitue une tentative de détournement de fonds. L'IGF estime aussi que rien ne justifiait que cet argent ne soit pas placé à la Banque centrale. Et Vital Kamerhe n'a pas répondu sur ce point dans une interview qu'il a accordée dimanche dernier à Jeune Afrique. Il renvoie la balle au ministère de l'économie. Quant à Félix Tshisekedi, eh bien, il n'a pas réagi, silence sur ses affaires et ça passe mal dans l'opinion. Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, c'est ce qu'il avait promis. Et pour une partie de la société civile, avec toutes ses affaires, il avait l'opportunité de montrer qu'il tiendrait promesse. Mais jusqu'à présent, pour eux, il rate cette occasion.
Affaire bien complexe que vous nous avez détaillée. Merci Florence Maurice et pour tout comprendre, je vous renvoie évidemment sur notre site rfi.fr avec ce dossier que vous avez réalisé avec Patient Ligaudy, 10h30 à Paris.